Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des...
Des... Clip, crop,
des...
Bang,
des...
Blanc,
et des...
Zip, shabam, pow, blanc, whiz.
Un festival? Des festivals? Bonne question. Mais qu'en est-il des veaux qui vont au festival? Ah, c'est pas mal. Des veaux érudits, bien entendu. Au hasard, pas vraiment. Nous allons traîner, farfouiller, nous promener, quoi. Où ça? Dans un festival de BD pas comme les autres. Et parce que pourquoi? Allez, on se suit, on découvre le programme ensemble. Vous guide, Charline.
Bonjour.
Et Jean-Marc pour vous servir. Alors, quel festival, Charline? Tu peux nous présenter le festival?
Bien sûr, c'est le festival de Causoncase à Cousance, donc qui a lieu, comme le nom l'indique, à Cousance, du 9 au 10 décembre. Donc, il y aura des séances de dédicaces d'énormément d'auteurs, dont on va pouvoir faire un petit point des sorties qu'il y a eu dernièrement en BD. Et puis, il y a aussi plein d'autres choses. Donc, nous, on a un festival, donc pas comme les autres, on se veut encore un peu familial, donc on accueille les enfants, etc. Et puis, on essaye de faire en sorte que ce
Qu'est-ce
soit...
Qu'est-ce que ça veut dire, un festival familial?
Ouh. Ça veut dire qu'en
ça,
fait...
Ça, c'est ton côté éducatrice.
C'est mon côté éducatrice, merci. Non, c'est-à-dire qu'en fait, on essaye d'avoir une proximité avec les auteurs, essayer de faire en sorte qu'il y ait le respect et des auteurs et des personnes qui viennent ici en dédicace.
Ça, ça crée un rapport qui est complètement différent avec les auteurs. Oui. Bah, les auteurs et les enfants, en général, ça accroche bien, quoi.
Oui, après, on a quelques auteurs jeunesse, ça c'est sûr, mais on a aussi des auteurs qui sont pour les adultes. Donc, effectivement, on essaye de faire tous les publics. Donc, voilà. Et puis, on fait de la restauration sur le site. Et puis, on aura une soirée dîner-concert où les auteurs seront en même temps dans la même salle. Enfin, voilà, pour essayer, en fait, de lier, de faire en sorte que l'avenue des auteurs soit aussi une activité locale, en fait. Voilà.
D'accord.
Je répète les dates, c'est du 9 au 10 décembre à Cousance, voilà.
Voilà, et on va passer à notre première BD.
Très bien. Donc
avec un peu de musique avant.
Pas de souci.
On va le faire. Vous avez écouté Les Tirailleurs Sénégalais, c'est incroyable, de Baï Gallo. Voilà. Et ce qui nous amène à la première BD qu'on vous offre, de Fournier et Chris, qui s'appelle Plus près de toi. Alors, Plus près de toi, je vais commencer, je fais le pitch, hein, ça fait bien le pitch. Hein. Alors, le pitch, c'est un soldat noir. Pendant la Deuxième Guerre mondiale,
exact.
Pas se tromper de guerre, voilà. Qui est un ex-prêtre, c'est un peu compliqué à prononcer, mais enfin voilà.
C'est pas un prêtre, pas encore ordonnancé, si vous voulez, plutôt.
Ouais, il est mal fini, donc. voilà. Et donc, il s'engage dans la Deuxième Guerre mondiale. Il y a, moi, j'aime beaucoup la pochette parce que je la trouve très belle. C'est on a l'impression qu'il respire énormément, qu'il aspire même.
Ça représente la pochette représente plutôt bien l'album. Il y a un grand drapeau français en fait, et on voit qu'il est sur un bateau et il respire l'air. Et en fait, de ce bouquin. Enfin, moi, j'ai senti un fort sentiment national de la part de Sénégalais. C'est pour ça que c'est des tirailleurs sénégalais. Voilà, c'est, on s'en fout.
Mais c'est une vérité vraie, ça. Des tirailleurs sénégalais.
Mais bien sûr, ça s'appuie en fait sur de la réalité. Hein, énormément de régiments qui sont venus, qui ont été pris dans les colonies. Et qui, en fait, avait aussi un sentiment français. Enfin, il y a certainement des gens qui n'avaient pas de sentiment français, ça j'imagine.
Bah, la plupart du temps, c'est son cas en tout cas, ils ont été élevés par des prêtres.
Celui-là n'a pas été élevé par un prêtre. Son père a l'air d'être plus un dignitaire ou quelque chose comme ça.
Oui, mais ils ont été éduqués
par les pères blancs. D'accord, oui.
Voilà. Pas élevés, éduqués, excusez-moi. Mais j'adore la couverture, je la trouve très très belle et très structurée, c'est très beau. Je sais pas si tu veux nous parler de l'histoire.
Mais bien sûr, je veux bien parler de l'histoire. Donc cet homme noir en couverture s'appelle Adi, il était prêt à être ordonnancé prêtre juste avant qu'il y ait l'appel donc de la Seconde Guerre mondiale, pardon, et son père lui dit « tu vas prendre l'habit, tu seras prêtre après ». Et donc il prend l'habit, mais il ne veut pas être habillé exactement comme un tirailleur sénégalais, c'est pour ça qu'on a choisi cette chanson-là. Il ne veut pas porter la chéchia, vous savez, le chapeau rouge des tirailleurs sénégalais, il veut être habillé comme un Français, car il se sent vraiment Français. On passe directement donc, de ce moment où il est sur le bateau en France, où il croise un de ses futurs amis, je pense, qui s'appelle Ibrahim, donc qui lui est musulman, et musulman, mais noir. Et donc on voit l'histoire de ces deux personnes qui vont être, c'est la fin de la guerre, donc les soldats deviennent des prisonniers, et ils vont devenir prisonniers, eux, en Bretagne, donc. Vous verrez que la Bretagne, ça revient. Donc, ils vont être prisonniers en Bretagne et ils vont être mobilisés pour aider dans les fermes, etc. Et donc, s'ensuit quelques jolies histoires d'amour.
En fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, il y a plus de... il n'y a plus de personnalité d'origine, etc.
Exactement, ça brise vraiment les barrières qu'on pourrait s'imaginer, en fait, qu'il y a. C'est vraiment très drôle parce qu'au début, on a des scènes qui sont quand même assez choquantes. On ne s'imagine pas avec le dessin de Fournier, qui est un dessin un petit peu plus... pas réaliste, avoir des scènes aussi choquantes, en fait. Il y a une scène notamment de fusillade, moi, qui m'a bouleversée. Et je me suis dit, ça n'aurait pas été justement un dessin comme ça. Ça aurait pu me choquer plus.
Alors, justement, ce dessin, puisqu'on en parle, c'est un dessin qui fait un peu naïf.
Oui.
Plupart du temps.
Un peu, oui. Il fait plus dessin de bande dessinée jeunesse. Voilà.
Oui, comme si c'était un enfant qui l'avait dessiné.
Oh, peut-être pas.
Hein. J'exagère un peu. Mais...
Je ne pense pas avoir déjà les capacités comme ça à dessiner. Même... Et je ne suis plus un enfant.
Oui, mais... vous êtes une jolie femme, hein, pardon. Non, mais on a l'impression, quelquefois, que par moments, que c'est un peu infantile comme dessin.
Infantile, je ne sais pas, dessiner à un public peut-être plus jeune, peut-être, oui, parce qu'on a eu l'habitude de voir Fournier sur d'autres choses, sur du Spirou,
voilà,
sur...
Donc on est un petit peu surpris quand même.
Oui.
C'est pas tout à fait comme d'habitude.
Exactement, c'est pas comme d'habitude, mais c'est très bien.
Mais par contre, dans la texture du texte, pardon, alors c'est moi qui m'embrouille, la texture du texte, c'est assez solide. Hein.
Oui, Chris est un très bon scénariste qui fait pas mal de choses sur la guerre en général, il y en a eu quelques-uns. Il a fait notamment Notre Mère la guerre avec Maëlle, qui est, si tu l'as pas lu, lis-le. Et il est vraiment solide en fait. Le récit, je me suis demandé à un moment si c'était une histoire vraie ou si c'en était pas une. Tellement c'était possible quoi. Tout est crédible dedans. Et je trouve ça très fort, en fait, parce que, heureusement, j'ai lu les petits trucs au début du bouquin qui disaient que c'était inspiré de personnages fictifs, de personnages réels, mais que les personnages étaient quand même... c'était quand même de la fiction.
Et la grande inconnue, c'est la Bretagne.
Oui, en Bretagne, mais il me semble que c'est des Bretons, c'est pour ça, peut-être.
C'est peut-être l'anti... Un black en Bretagne, ça fait bizarre, quoi.
Oui, mais que ce soit en Bretagne, en Franche-Comté, dans le Nord-Pas-de-Calais, ça aurait fait bizarre, hein, de toute façon.
Non, mais la Bretagne, c'est pas mal.
Donc voilà, donc Fournier, qui est le dessinateur, sera présent dans notre festival. Par contre, Chris, non, malheureusement. Si jamais il veut venir, je l'invite. Il n'y a pas de souci.
Avec plaisir.
Voilà. Et puis, cet album est très bien. C'est juste le premier tome, mais j'attends avec impatience le tome 2 parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe. Mmh. Sous fond de guerre et de nazisme, il y a quand même une jolie histoire.
Et pour conclure, je vais dire « Oh, Jeanne, regarde, des soldats noirs !» Ce sont sûrement des prisonniers français. C'est un bon petit coup de banjo, là. Ça fait toujours plaisir. Hein. C'était qui
The Charleston, c'est Great Hill International. Franchement, c'était anglais, t'aurais dû le dire.
Ouais, bon, c'est pas grave. Hein. Tu le fais très bien.
Oh non.
Donc, on bascule. Là, on change d'époque. On remonte un petit peu en avant.
Hein. Oui.
Tamara Delempicka. J'essaie de le faire le mieux possible. Hein. De Virginie Greiner.
C'est pas facile, hein.
Et Daphné Collignon.
C'est ça. Donc Virginie Greiner au scénario et puis Daphné Collignon au dessin.
Voilà. Et là, on a une BD qui est un... Ah, je parle déjà de dessin, il faut que je me calme. C'est très Art Nouveau et très graphique.
Ah voilà. Non, c'est Art Déco plus que Art Nouveau, hein, là, pour le coup. L'Art Nouveau, c'était avant.
Bon, d'accord, ok. Okay. Et la particularité de l'album, c'est qu'il est en bicolore.
Tout dépend des endroits.
Des endroits et des envers.
Oui, exactement.
Voilà. Et c'est chez Glénat, pardon, je n'ai pas précisé avant. Et moi, j'ai adoré ça. Alors, c'est l'histoire d'une femme qui est un petit peu complexe.
Atypique, surtout, oui. C'est une peintre, donc connue pour les gens qui s'intéressent. C'est Tamara Delempicka. Elle est très connue surtout pour un tableau avec une femme avec un lys et un grand chapeau blanc. Je pense que celui-là fera peut-être plus écho chez les gens. Et donc, cette Tamara Delempicka vivait donc, dans les années folles à Paris. Après avoir fui la révolution russe, en fait. Mmh. Et donc, elle monte au fur et à mesure de l'album dans ce tout Paris, avec tout plein de personnages qu'on connaît, André Gide, Colette, Jean Cocteau, enfin, j'en passe. On explore un côté très, très mondain de Paris, et puis son ascension avec le fait qu'elle montre ses tableaux, sa recherche d'une certaine personne, un petit peu le modèle, la beauté, quoi. Et bon, c'est aussi une femme qui se réclamait comme étant bisexuelle, donc c'est bien traduit dans l'album.
Et puis elle fume.
Ah oui, elle fume, c'est une femme totalement indépendante. Enfin, moi, je trouve que cette bande dessinée montre une femme... qui même maintenant serait moderne, en fait. C'est ça qui est, c'est ça
ouais,
qui
elle
est
fait
fou.
Penser un petit peu à François Sagan. Enfin, je veux dire des bêtises.
Je ne connais pas beaucoup la vie de François Sagan, donc je peux pas, trop dire.
Non, mais elle est finie.
Oui, mais bon, je la connais pas quand même. Et donc, en fait, c'est elle, en arrivant à Paris, qui pourvoit aux besoins de son foyer.
Déjà, quand on la regarde, elle ressemble à un tableau.
Oui, non, mais de toute façon, chaque image est limite un tableau. Alors bon.
Ouais. Et la mise en page est assez particulière.
Oui, elle est très belle. Moi, j'aime beaucoup ce style d'album. J'aime beaucoup ce style de dessin. Mm-hmm. Et puis, je trouve que le dessin dégage une atmosphère qui va très bien, justement, avec les années 20. C'est toujours tamisé, c'est toujours feutré. C'est vraiment mm-hmm. très beau. Enfin, moi, j'adore le dessin de Daphné Collignon, qui d'ailleurs a fait notre affiche. Donc, elle est très belle aussi.
Oui, l'affiche est très belle, je confirme.
Cependant, donc, Tamara Lempicka, c'est vraiment le portrait d'une femme, comme on en voit peu.
Mais c'est la femme moderne.
Mais plus que moderne, elle pourvoit aux besoins de son foyer, elle s'affranchit des règles du mariage, enfin, elle élève sa fille quand même, enfin, et elle met plein de choses à l'intérieur qui font que c'en est une femme assumée, quoi. Enfin, moi, j'ai vraiment
c'est
aimé ça.
C'est une femme mec, en fait.
Non, c'est une femme.
C'était de la provocation.
Oui, je sais. Je vois bien. Je sais que tu me cherches sur ce terrain.
Mais c'est vrai que quand on regarde chaque case est une peinture, en fait. Mm-hmm. Hein. C'est assez extraordinaire. Je suis uniquement sur la première page.
Oui, non, mais c'est vrai que c'est très, très beau. Et au fur et à mesure donc, des pages, qu'elle fait ses tableaux, qu'elle est reconnue, etc., on voit une femme qui l'obsède, en fait, sa poursuite du modèle, etc., du modèle parfait, en fait, avec les rondeurs, les formes, les galbes qu'il faut pour pouvoir s'exprimer. Enfin, c'est très beau. Et puis, la vue de son métier d'artiste est belle. Et on a droit à la fin à une petite rétrospective de toute la vie, justement, de Tamara de Lempicka, ce qui apporte quelque chose. En fait, on a un sentiment pas d'inachevé quand on finit la BD. Mmh. On a juste envie d'en avoir plus. Et la rétrospective
alors,
fait que c'était bien.
A-t-elle existé?
Mais bien sûr, elle a existé. Bien sûr qu'elle a existé. C'est une vraie peintre. C'est une vraie peintre donc, qui a fait ses heures de gloire jusque dans les années, 60,
c'est
je crois.
C'est contemporaine de Gauguin ou de gens comme ça.
Elle est de 1923.
Oui, à peu près. Ouais.
Donc voilà, elle a commencé en Russie, mais elle a fait des écoles d'art à Paris.
Et puis, je croyais que Tamara, c'est un dessert.
Non, c'est du tarama et c'est pas du tout un dessert, Dis-toi,
non, j'ai fait exprès, encore une fois.
Donc voilà, je trouve que cet album, il est beau, il n'est pas...
Non, il est très très beau. Moi, je l'ai trouvé très beau, mais je l'ai trouvé beau comme une galerie de peinture.
Ah bah exactement.
On se promène dedans.
Oui, on se noie dedans.
L'histoire, je n'ai pas franchement accroché, mais non, c'est une promenade. Voilà.
Oui, mais moi j'ai beaucoup aimé l'histoire, parce qu'en fait... Si on ne lit pas les petites bulles, les paroles, en fait, montrent la force de la femme. Et c'est ça qui est bien, en fait. Peut-être que cet album touchera peut-être plus les femmes que les hommes, hein, je ne sais pas. C'est dommage de se dire ça, quand même. Mais je trouve que moi, ça m'a touchée.
Moi,
c'est
surtout le dessin qui m'a touchée.
Oui, mais j'imagine
bien. J'ai trouvé
bien.
Ça très, très beau. Et oui, je me suis promenée dedans.
Voilà. D'accord.
Et peut-être que je ne l'ai pas assez lu.
Ah, peut-être. C'est
possible.
Peut-être, Jean-Marc.
C'est possible.
Donc voilà, donc c'était Tamara de Lempicka avec Virginie Grenner, donc qui est notre invitée d'honneur cette année, et Daphné Collignon qui a fait l'affiche. Ah bah oui, quand même. Donc voilà, donc c'est des auteurs qui nous sont fidèles, qui aiment venir au festival et qu'on accueille toujours avec un grand plaisir.
C'est quelqu'un de la région ?
Non, pas du tout.
Bon,
aucune. Il me semble que Daphné Collignon, pas du tout, et puis Virginie Grenner, elle est dans le sud, mais je suis pas sûre.
Il y a un sud ?
Hein ?
Bon.
Oui, il y a un sud.
Il y a un sud.
Donc voilà. Donc,
mais c'est un très bel album.
Oui.
Très beau. Et je le conseille. Achetez-le.
Et au détour aussi, vous pouvez faire un tour pour regarder un petit peu la galerie de Tamara de Lempicka, parce que je suis sûre que vous allez faire « Oh oui !» en voyant ses œuvres. J'en suis certaine.
Parce que c'est affiché chez vous ?
Non, c'est sur Internet, voyons.
Ah, d'accord. Mais vous auriez pu faire une galerie là-bas.
Mais non, on a nos auteurs déjà à mettre à l'honneur.
D'accord. Non, mais c'est un très bel album. En plus, j'aime bien faire remarquer la typographie qui est complètement... Alors, je vais me faire reprendre.
Ah oui.
C'est Art Déco.
Bingo.
Toc. Voilà, c'est très beau. J'adore ça. Et voilà, c'est tout. Bel album, belle couverture, beau dessin, enfin tout. C'est top. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. It's a kind of magic. Bon, bah, salut Queen, on t'a assez entendu. Mais ça nous a permis quand même d'introduire, enfin c'est une image, Volodrine. Voilà. Alors W-O-2-L-O-D-R-I avec tréma, c'est un peu compliqué tout ça. Et un N à la fin.
C'est normal, c'est parce que c'est un autre univers, c'est pour ça.
Ouais, c'est pour ça qu'on n'écrit pas de la même façon. Voilà. Donc, Volodrine, c'est un personnage qui est... C'est une espèce...
C'est une série, Volodrine. Ouais, Volodrine, en fait, est une série. Donc là, c'est le 8e tome. Il y a eu... c'est en 4 petites histoires, en fait, de 2 tomes. Donc pour l'instant, donc là, on a la fin de la 4e petite histoire qui va se poursuivre dans le tome suivant. Et donc, on sort totalement d'un univers réaliste. On part dans un univers médiéval fantastique, dont je raffolais quand j'étais adolescente. J'adorais ça. Les Lanceuses de Troie, j'en ai lu. et relu derrière. Et donc voilà, ça c'est un univers que j'ai plus lu depuis un bout de temps, mais bon, qui me plaît quand même. On suit un orque donc, qui s'appelle Windmore. Attention, il va y avoir que des noms compliqués. Un orque qui s'appelle Windbor, qui parle avec Fnir, un dragon, voilà. Mmh. Et puis le dragon lui raconte l'histoire, etc. Et donc, comme dans tout roman ou alors bande dessinée médiévale fantastique, on a toujours les quatre représentants des mêmes espèces, voire 5. Donc, il y a les orques, les nains, les elfes, les hommes, voilà.
J'ai tout dit. Long
chapeau, et il y a des sorciers, enfin voilà. C'est toujours un peu le même classique.
C'est la même forêt, quoi.
Voilà, exactement, si tu veux, oui. Et donc voilà, c'est des petites quêtes, ils vont tous les deux essayer de chercher la libération du dragon, le fait de le tuer, le fait de pouvoir se venger pour Vaudrine, et puis on croise 2 autres personnages, donc un nain et un elfe qui sont ensemble, qui ont une amitié qui n'est pas juste une amitié, c'est un peu... Ils se contredisent un peu, vous voyez, ils se taquinent, ils se charrient, mais enfin voilà.
Ah ben, c'est les grands amis qui se charrient un peu.
Et donc, eux vont en quête d'une ville, donc une grande ville. Voilà. Donc, les auteurs, on ne l'a pas dit, pardon. C'est David Chauvel, Jérôme Le Reculé, qui était président d'honneur l'année dernière et qui sera là encore cette année. Et Lou, c'est le coloriste. Voilà. Donc,
ça te donne l'occasion de nous parler de ton festival un peu.
Ah ben oui, mais on va parler de la BD et puis je parlerai du festival juste après si ça ne te dérange pas.
Non, mais je vous en prie, chérie.
Donc voilà, en définitive, c'est un roman qui est aussi destiné, je pense, déjà à un public adolescent. Je pense qu'ils sont tout à fait à même de le lire. Et c'est très sympa. Comme entrer dans la BD, moi, je trouve que c'est toujours sympa. Moi, je suis entrée avec l'enfuste.
Ce que j'ai apprécié, c'est les architectures.
Ah oui,
les maisons.
Là, ça claque. Hein.
Ah non, c'est bien. Oui, ça claque. Donc, c'était très agréable. Et puis, les couleurs aussi.
Ah oui, les couleurs.
Il y a beaucoup de travail sur les couleurs.
Les couleurs, c'est Lou et le dessin, c'est Jérôme Le Reculé. Donc voilà, après, c'est des bandes dessinées qui, pour des lecteurs qui aiment la bande dessinée réaliste, n'y allez pas, quoi.
Non, pas du tout.
Vous n'êtes pas dedans. Mais pour des gens qui aiment le médiéval fantastique, vous allez adorer. Les dessins de paysages aussi sont super chouettes.
Ouais, surtout que les mises en page sont complètement éclatées.
Oui, c'est éclaté.
Elles sont anti... normative. Et c'est assez intéressant.
Oui, et puis c'est très facile à lire. Enfin, moi, je trouve.
Il y a un côté qui me rappelle le comics américain. Et ça, je ne devrais pas le dire parce que je vais me faire engueuler.
Ah, bah, je ne sais pas. Si vous voulez, vous viendrez voir Jérôme Le Reculé au festival et puis vous lui direz en face.
Et si, il y a le petit côté comics américain. Ouais.
D'accord, mais je lui en parlerai, je lui dirai.
Bon, je pense pas qu'il le prenne mal.
Non, je pense pas non plus.
Et je pense qu'il en a lu des comics américains.
Oh oui, je pense aussi. Et donc, ce qui est rigolo, c'est que par contre, on sort sur un dénouement qui donne vraiment envie d'aller sur la suite. En fait, ça c'est typique, je trouve, des séries télévisées, mais aussi des séries de bouquins. Dès qu'on a fini la dernière page,
bah, il faut amorcer la suite.
On se retrouve bloqué parce qu'on n'a pas la suite. Et donc voilà, ça c'est.
Mais c'est bien.
Oui, c'est bien.
C'est le bon moteur.
Exactement. Par contre, là, on a lu que le tome 8, donc c'est vrai qu'on ne s'est pas basé sur toute la série, et puis bon, ce n'est pas une vue d'ensemble qu'on a. Mais moi, je trouve que pour un album 8, j'ai quand même réussi à me plonger dedans, et ça c'est bien.
J'ai réussi à le lire tout seul.
Ah, oh, bravo.
Enfin, tout seul.
T'as oui, pas eu besoin d'aide, hein.
Non, moi, tout seul, et puis l'avant et l'après ne m'a pas manqué.
Enfin, ah, d'accord.
J'ai compris quand même.
D'accord, très bien.
J'ai beaucoup prié aussi.
Donc voilà, donc je vais te faire un petit point. Donc ça, c'est la dernière BD en fait que je présente en nouveauté de nos auteurs. Et donc il n'y a pas juste
chez Delcourt. Hein.
Oui, chez Delcourt. Et donc il n'y a pas juste Virginie Grainer, Daphné Collignon, Jérôme Le Reculé et puis Fournier qui viennent. Il y a aussi Olivier Boiscommun, Elvire Decoq, Steve Cusor, Tatiana Domas, Jérémy Fleury qui fait beaucoup de jeunesse que j'aime bien. Daniel Fuchs, alors je suis désolée si j'écorche ton nom Daniel, il est très gentil, il viendra, il sera sur un stand. Juan, Gwendal Le Mercier, Jim Maître, Christelle Pécou, Pascal Piatti, Lucien Rollin et Philippe Larbier. Ça en fait, hein, vous voyez, pour les dédicaces, etc., ça en fait.
Ça fait du monde, tout ça.
Oui, effectivement.
Bon, bah, il faut y aller, hein, à Cousance, au festival.
Je vous attends.
Les dates, hein.
Du 9 au 10 décembre.
Voilà.
Il faut y aller. Il y a le Facebook, si vous voulez savoir les horaires de dédicaces des auteurs, il n'y a pas de souci, c'est dessus.
Voilà.
Tout est dessus.
Ok, pas de problème.
Okay, you want another, you get it. And you're going to meet the winners of the Harvest Moon Contest, Jimmy and Jovita dancing to Little Richard and Tutti Frutti. Rock to the west,
Charline et moi, on vient de descendre de la table. On dansait sur la table. Puis voilà. Non, mais c'était trop bien. Quoi.
Comme d'hab.
Mais oui, parce que Love is in the air. Voilà. Donc, c'est encore un nouvel album. C'est très chouette.
Oui, c'est très joli.
Ça s'appelle Lapone.
Non. Ça s'appelle Love is in the air.
Non,
Lapone, c'est l'auteur.
Lapone, c'est l'auteur. Lapone, peut-être, parce que ça a l'air un petit peu
italien.
C'est
un italien.
Ouais. Et donc, le scénariste, c'est JF. Lapone dessinateur, Love is in the air, c'est magnifique. Si vous aimez les années 60.
On fait un voyage dans le temps, hein. On est dans les années 20, dans les années 40, dans les années 60.
C'est absolument magnifique, c'est très graphique. On dirait des pubs pour Air France.
Mais ça c'est facile, c'est parce qu'il y a une hôtesse de l'air dedans que tu as l'impression que c'est pour Air France.
Non, sur les couvertures, oui. Et autrement, non, c'est très BD belge. C'est assez fabuleux. Ça fait penser à Serge Clerc un petit peu.
Je vois pas qui c'est Serge Clerc. Si je vois une BD, je te dirais peut-être que j'ai déjà lu, mais.
Bah, c'est très tendance. Oui, tendance sexiste. Ouais.
D'accord, très bien.
Après, l'intérêt de. Voilà. Il n'y a rien de plus beau qu'une hôtesse de l'air.
C'est pas non, juste non. Une hôtesse de l'air. Bibi Newman n'est pas qu'une hôtesse de l'air, c'est aussi une mannequin pour la Pan American.
Oui,
et donc
sûr,
voilà, mais... donc en fait c'est ça en fait qui fait un petit peu.
Mais une hôtesse de l'air, c'est toujours un mannequin.
Ah bon?
Pour être une hôtesse de l'air, il faut quand même avoir
un...
Non,
mais
le
je
look.
Le prends comme un compliment, j'ai une tata hôtesse de l'air donc.
Ah d'accord. Ok. Non, mais c'est très. Ça fait beaucoup penser à Spirou. Au niveau graphisme, etc.
Un peu, oui, un peu.
C'est très années 60, et c'est très beau, et ça fait beaucoup penser à la pub des années 60, Gruau. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça.
Non, la pub des années 60, je ne m'en rappelle plus.
Oui, mais tu n'étais pas née.
Ben oui, forcément.
C'est forcément. Et Gruau, il dessinait des filles comme ça, pour des parfums, des...
Oui, ça fait penser un peu aux croquis aussi de styliste.
Oui.
Moi, je trouve que ça fait penser aux croquis
de modiste, de styliste.
Oui, de modiste, si tu veux.
Non, mais c'est bon. On ne va pas se disputer pour ça.
Ah, ben si. Voyons, crêpons-nous le chignon.
Non.
Ben si, c'était années 60, se crêper le chignon, non?
Oui. Ah ben oui, mais moi, je n'ai pas de chignon. Et à la fin de l'album, on a un bonus avec des croquis... Ouais, qui font un très croquis de mode.
Ouais. Oui, c'est aussi pour ça que j'ai dit ça. On a très, très jolis croquis. Donc, et puis des doubles plages de feuilles. Des doubles feuilles, en fait, avec, avec des illustrations de tests de l'air. Come on, fly with me, come on, fly with me. C'est come fly, ouais. Pardon. With me. Enfin, voilà, c'est très sympa. Donc, c'est une BD qui se déroule dans les années 60, dans le Greenwich Village.
Ouais.
Et dans un seul immeuble. Qui s'appelle, attendez, je retrouve mes notes, non, je ne sais plus, Perry Street, voilà, un immeuble de Perry Street. Voilà, c'est une hôtesse de l'air.
Pourquoi Perry?
J'en ai aucune idée. c'est pas expliqué, mais en fait, ça, c'est le premier tome
mais
d'une
c'est
série.
Vous savez que c'est un petit aparté.
Vas-y.
Greenwich, c'est une des seules parties de New York où les, noms de, les rues ont des noms.
Ah oui, bah, ils n'ont pas de numéro, oui.
Autrement, dans tout le reste de la ville, c'est des numéros de rue et des numéros d'avenue.
D'accord. Voilà.
Et dans Greenwich, par contre, il y a des Perry Street, Andrew Street, tout ça. Enfin,
d'accord, je ne savais pas du tout. Donc, ça se passe dans Greenwich Village. Et donc, ça, c'est le tome 1, en fait, d'une série qui s'appelle, en fait, Greenwich Village, tout simplement. Et le deuxième vient de sortir, ou va sortir, il me semble. Ça s'appelle What's New Pussycat. Alors, si t'aimes celui-là, je pense que le deuxième te plaira.
What's New Pussycat, c'était un film. Hein.
Mais voilà, mais je pense que... Mais Love is in the Air est une chanson aussi, donc voilà.
Je peux la chanter. Non, mais c'est peut-être pas souhaitable maintenant.
Donc c'est Bibi Newman, hôtesse de l'air et mannequin, qui emménage au-dessus de Norman Hawks, qui est un journaliste sur la pente descendante.
Rappelle, Ça nous rappelle un peu le film avec Marilyn Monroe. Là.
Oui, ça rappelle un peu les films avec Marilyn Monroe, effectivement, où on a une femme magnifique, etc.
Qui habite à côté.
Qui habite à côté.
Il s'appelle comment ? Certains l'aiment chaud, non ? C'est pas ça ?
Non, il me semble pas que ce soit celui-là.
Non, certains l'aiment chaud.
Certains l'aiment chaud, c'est pas quand ils sont dans la fanfare ?
Non. Quand elle habite au-dessus de son voisin. Enfin bon, c'est pas grave.
Et donc voilà, donc bon, bah, par des...
Non, par, mais c'est très joli, ça ressemble à... Vous allez chercher sur Internet Gruau, ça ressemble beaucoup à Gruau, surtout la couverture. Les affiches publicitaires des années 60, pour le look hôtesse de l'air, ouais. C'est vrai que c'est imbattable, hein.
Décidément, Jean-Marc, tu es incorrigible.
Non, je suis incorrigible.
Je finis l'histoire ou pas pour donner un peu envie aux auditeurs de lire livre aussi.
Je vais lire une bêtise.
Et pas juste pas le utile. Regarder.
C'est pas utile.
Donc, le fait est qu'à un moment dans l'histoire, l'intrigue fait en sorte que Bibi et Norman soient obligés d'habiter dans le même appartement. Seulement, Bibi est une femme extrêmement bruyante qui adore tutti frutti. Et qui ne sait pas vivre sans le progrès, etc. Et lui, c'est tout à fait le contraire. Il déteste le tumulte de la ville. Et puis, il déteste aussi tout ce qui est progrès. Il trouve que ça va trop vite. Et bon, bah, comme dans ces films, ces fameux films américains, on s'en doute bien. Qu'est-ce qui va se passer à la fin ? Ils vont s'aimer, voilà.
C'est certain, l'aime chaud, le film.
T'es sûr ?
Oui.
T'es sûr que c'est certain, l'aime chaud ?
Certains l'aiment chaud.
D'accord, ok.
Voilà. Marilyn Monroe habite au-dessus de son voisin, je ne sais plus comment il s'appelle. Non.
Je ne sais pas, moi importe. J'ai vu Comment épouser un millionnaire, donc je ne peux pas te dire.
Ah non, mais on n'est pas dans le même registre. Hein.
Ah mais c'est plus ça intéressant. Reste du Marilyn Monroe. Hein.
Yes.
Donc voilà, c'est un album. Moi, j'ai trouvé que le dessin, il était très chouette. Lapone, moi, je l'ai déjà vu, j'ai déjà lu. Je me suis demandé tout le long de l'album. J'ai déjà vu ce dessin. Et effectivement, il a fait Accord sensible, qui est à la médiathèque et qui est super, que moi, j'avais vraiment bien aimé.
Il a un côté très graphisme publicitaire. Ah
oui. Bah, graphisme, oui. C'est très chouette. Avec peu de traits, il arrive à dégager quelque chose.
Il y a beaucoup de travail.
Oui. Mais oui, mais il y a peu de traits, c'est ça le truc. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de travail.
Moi qui dessine, je peux vous dire que peut-être qu'il gomme beaucoup.
Ah oui, mais c'est fort possible, oui. C'est fort possible, mais avec peu de traits, il y a énormément de choses qui passent. Et ça, je trouve ça, vraiment bien.
Ça me fait beaucoup penser à Serge Leclerc. Je ne sais pas si vous vous rappelez.
Je crois que tu l'as même déjà dit.
J'ai déjà dit. ça, c'est l'âge qui fait ça.
Oh oui.
Non, ça fait très années 70.
Plus 60, quand même.
Oui, mais je pense au moment où c'est revenu à la mode.
Ah, d'accord.
Voilà. Quand j'étais jeune.
Donc voilà, donc cet album est très bien. Enfin, je le trouve léger, je le trouve sympa.
Il est...
il est conséquent en poids, mais il est léger comme... Oui.
Non,
la
mais
légèreté,
il est vaporeux, il est agréable.
Voilà,
quoi.
Il est agréable. Si vous n'avez pas le moral, je pense que vous pouvez le lire et il va vous le remettre.
Oh, c'est sympa. C'est chez Kens. K-E-2-N-E-S, c'est l'éditeur. Ça, voilà. Amour, jalousie, humour et voyage.
Et des petits chats aussi.
Il y a des petits chats, oui.
Je partirai sur ce vieux zinc à chaque gorge de vinasse qui sera mon seul carburant, mon seul ami dans ce palace. C'est dans le lit du torboyau que je dormirai tout à l'heure quand j'aurai usé ses goulots, embrassé le cul de ses sœurs. Allez, vas-y, la mer, sors-moi ta bouteille, la mer, celle où qu'un message dedans, celle où qu'on se voit dedans. Allez, vas-y, la mer, sors-moi la mer, celle où qu'un message dedans, celle où qu'on soit dedans. Vas-y la mer, sous le comptoir, y'a une cuvée pas pour les filles. On a comme dirait rendez-vous range des mignonnettes de pacotille. J'ai soif, c'est du sérieux, du genre breton qui rentre au port. J'ai soif, c'est du sérieux, allez, soulage-moi le corps. Allez, vas-y la mer, sors-moi ta bouteille. La mer, c'est qu'un message dedans, celle où qu'on se voit dedans. Allez, vas-y la mer, sors-moi ta bouteille. La mer, c'est qu'un message dedans, celle où qu'on se voit dedans.
C'était joli tout ça.
Oui, c'était Carpates. Vas-y la mer.
Carpates.
Oui.
Mais les Carpates, c'est pas dans la mer. Enfin bon, c'est pas dans.
C'est un groupe qui fait du jazz manouche, mais ils aiment bien faire des chansons un petit peu d'accord. plus avec la mer aussi.
Et ben là, on va parler de la mer. Là, j'ai devant moi l'image d'un phare. Pas un phare, si un phare breton.
Ouais. Oui, mais pas.
Mais c'est pas un gâteau. Pas un gâteau. Hein. Mais je vous lis juste l'introduction parce qu'elle est jolie hein, et après je laisserai la parole à mon ami. Au loin, au large de l'île de Sein, Armen émerge des flots. Il est le phare le plus exposé et le plus difficile d'accès de Bretagne, c'est-à-dire du monde. On le surnomme l'enfer des enfers. Si vous connaissez la Bretagne, ça vous parlera peut-être un peu.
Oui, bah, l'île de Sein, ça peut parler, effectivement. Donc c'est un livre, non, une bande dessinée, pardon, d'Emmanuel Lepage, donc, qui parle de Armen, l'enfer des enfers. Donc un des phares qui est sur une roche au large de la chaussée de Sein, en fait, qui est un phare qui a mis énormément de temps à construire. Et donc voilà, on suit, on est un petit peu dans la construction de ce phare.
Et en plus, on a un CD à l'intérieur.
Oui, il y a un DVD en fait, un film DVD, documentaire avec Emmanuel Lepage justement dedans. Et c'est extrêmement intéressant. Bon, alors en plus d'avoir évidemment Emmanuel Lepage, je ne parle pas de manière objective parce que j'adore ce type.
Mais... Non, on ne peut pas, comme disait ma mère, on n'adore qu'un seul Dieu.
Hein. Bon, d'accord. Bon. J'apprécie énormément toute son œuvre. Voilà. Ça te va ?
Oui, c'est bien.
Donc oui, je trouve que son dessin est magnifique. Donc il y a beaucoup d'aquarelles. Et en plus de ça, c'est toujours des BD qui sont poussées dans l'investigation à fond. Et donc c'est magnifique. T'as quelque chose à dire dessus ? Ah ben avant moi, que je me lance dans mon grand speech.
Mais tu peux pitch. Aller dans ton grand pitch.
Très bien.
Moi, j'adore ses illustrations, c'est très beau. C'est assez elliptique, quelque part.
Tu m'as perdu.
Elliptique. c'est un tracé qui est... en même temps, il est dense, il est assez vide, volontairement. C'est... La façon dont on utilise le vide.
D'accord.
Le vide te rend plus fort.
Tu vois des choses que moi, je suis totalement inapte à voir. Je trouve c'est beau ou j'aime pas trop, mais je suis pas apte
La balance entre les blancs et les zones remplies,
mm-hmm.
Ça, il le travaille très bien.
D'accord, donc je me lance.
Non, vas-y.
Alors, la scène, elle s'ouvre en fait sur une côte, alors magnifique, avec des eaux bleutées, etc., avec une mouette qui vole, et donc un narrateur.
Ah, c'est normal, ça ?
Oui, une mouette qui vole, c'est normal. Et donc, il décrit au fur et à mesure du vol de la mouette, il décrit l'éloignement des terres, et puis l'un des premiers phares qu'on trouve sur la chaussée de l'île de Sein, ensuite celui qu'on trouve... Un peu plus loin, de la vieille jusqu'au phare le plus lointain, le phare d'Armen. Et il est justement gardien de phare dans ce phare d'Armen. Et c'est quelque chose, C'est un univers à part du temps et on découvre, alors qu'ils sont en train d'amener la relève sur ce phare, qu'en fait, on n'est pas dans les années maintenant, on n'est pas en 1920, etc. On est dans les années, je dirais, après-guerre, entre 50 et 60. Mmh. Enfin, j'ai trouvé ça exceptionnel de nous mettre hors du temps comme ça au début d'un album. Bon, déjà, voilà. Les personnes principaux, il y a le narrateur, Germain, et puis son collègue, donc, qui est venu faire la relève, qui s'appelle Louis. Ils sont ensemble et ils gardent le phare, donc ils font les informations météorologiques chaque jour, etc. Ils décrivent la houle, les vents, la pression. Et suite à une tempête, une grosse tempête qui a lieu dans le phare, Germain découvre des inscriptions sur le mur du phare qui décrit comment a été construit le phare. Donc on découvre là l'histoire de Moïse le Ruse. Alors, Moïse le Roux, je pense, ça doit se traduire un peu comme ça. Ça fait très breton, encore en Bretagne. Et on découvre comment il s'est engagé dans la construction du phare et comment ça a été dur de construire ce phare. Enfin, ça représente des années de construction, ne serait-ce que pour pouvoir planter les premières fondations. Ça a pris 2 ans, il me semble. Enfin, j'ai pas noté exactement. Et puis voilà, et c'est très beau parce qu'à la fin, on a ce... Enfin, j'ai jamais connu ça, mais il y a ce sentiment un petit peu nostalgique. Une époque est révolue et les gardiens de phare, le phare à la fin est automatisé. Donc les gardiens de phare n'existent plus et ça met une certaine nostalgie.
C'est une chose qui nous arrive actuellement, malheureusement. Et tout ce qu'on ne pourra jamais perdre, hein, c'est toute l'iconographie du phare. C'est magnifique. Moi, j'adore la couverture.
Hein. Ah bah c'est très fort. Hein. Un phare comme ça, perdu en plein milieu de la mer, subissant les vagues. Et puis, c'est très beau. Je peux rien dire d'autre. Et tout l'album, il y a des couleurs différentes en fonction des histoires. Parce qu'il y a 3 histoires. J'ai zappé une petite histoire sur la cité 10, justement, que le père raconte à sa fille, etc. Avec toute la dimension un peu mythologique de la cité 10.
Non, puis ce qui est intéressant, on le voit dans l'illustration, mais c'est surtout dans l'imaginaire, c'est que autour du phare, il y a tout. Il y a la tempête, il y a plein de choses qui bougent. Il y a la mer qui bouge, il y a la lune qui bouge, il y a les nuages qui bougent. Et finalement, un phare, on n'a pas besoin d'imaginer ce qu'il peut y avoir autour. Il faut juste regarder. Waouh, c'est beau ce que je dis. Hein. Je me calme.
Donc le phare est un peu seul dans la tempête. Et...
Mais c'est un point de repère, le phare. C'est ça qui est intéressant.
Celui-là, il est très très important. Parce qu'avant qu'il soit construit, justement, il y avait énormément de bateaux qui se fracassaient par là-bas.
Dans tous les sens du terme, c'est un point de repère. Parce qu'on voit que lui, et puis en même temps, on n'imagine même pas qu'il soit pas là. Ça serait un peu dommage s'il n'était pas là.
Ben si, il y a forcément des gens qui l'ont vu pas là, vu qu'il y en a d'autres qui l'ont construit. Et puis s'il y a eu ce phare, c'est parce qu'il y avait des bateaux qui faisaient naufrage et que celui-là était vraiment très important parce que la chaussée de Saint, apparemment, en navigation, c'est un endroit très très dangereux. Et les bateaux venaient souvent, étaient souvent détournés, et c'est pour ça qu'ils ont construit, ce phare. Et en fait, c'est facile de dire, c'est la construction de l'histoire du phare, mais effectivement, c'est tout l'engagement des gens qu'ils ont mis pour pouvoir le construire. Mais c'est hallucinant. Ils passaient des heures en mer pour pouvoir passer parfois que 8 heures de travail. En tout, en continu, en tout sur l'année, pas en continu, quoi, fragmenté. Donc ça veut dire, je pense, il y a 1 heure de bateau pour y aller, 1 heure de bateau pour revenir, et puis tout ça pour mettre 3 moellons. Et ce phare n'a fait qu'un mort, en fait, en définitive, malgré l'endroit où il est placé, malgré la mer qui changeait, qui était énormément changeante, enfin l'océan qui était énormément changeant à cet endroit-là. Il n'y a eu qu'un mort. Et en fait, on a envie de découvrir la Bretagne. On a envie de découvrir ses phares. On a envie de découvrir un petit peu l'histoire.
Et enfin, moi, ça m'a beaucoup renvoyé au peintre maritime.
Qu'est-ce qu'un peintre maritime ?
c'est pas un peintre qui s'est noyé dans l'eau. Non, un peintre marin. C'est moi, ça me rappelle le musée de la marine à Marseille, où on voit des tableaux absolument fabuleux de bateaux, de tout ce qui touche à la mer.
Oui, après, la mer, il y a cette dimension un peu de dangerosité, mais en même temps de mythe. Enfin, moi, je trouve que la mer, pour des gens qui habitent ici, enfin, moi, la mer, c'est quelque chose, c'est pas du tout mon élément, quoi. Hein,
moi non plus.
je suis pas du tout dedans, donc
ma mère, c'est maman, paraît du mythe. Non, mais autrement, ouais, c'est vrai. Non, mais les peintres maritimes, oui, je maintiens, je confirme. C'est quand même une sorte de peinture qui est assez particulière.
D'accord, je connais pas, j'irai me renseigner, je regarderai un petit peu. Mais voilà, c'est un Emmanuel Lepage à Futuropolis, et il est comme beaucoup d'Emmanuel Lepage. Oui, on n'a pas dit l'édition. Oui, comme beaucoup d'Emmanuel Lepage.
C'est une belle maison d'édition,
oui, Futuropolis. Oui, c'est une très belle maison.
Avec peu de sorties récemment, mais enfin, c'est quand même...
Oh, ça va quand même.
Ça existe toujours.
Oui, c'est une bonne maison d'édition qui est assez régulière.
Non, mais avant, c'était basé sur un magazine. Maintenant, c'est uniquement des sorties d'albums. Voilà, donc c'est Armen, Emmanuel Lepage. Et en plus, vous avez un CD avec, un DVD. Je suis vraiment un vieux con. Un DVD avec, donc, pour regarder la mer.
Et si vous aimez Armen, vous pouvez aller dans toute la collection Futuropolis avec Emmanuel Lepage, La Lune est blanche, Voyage aux îles de la désolation et Un printemps à Tchernobyl. Je les ai tous lus et je les ai tous aimés.
Voilà, vous avez...
Je me dépêche.
Bonne recommandation. Eh bien, je crois qu'on va être obligé de se quitter, malheureusement. On se revoit la prochaine fois.
Oui, je ne sais pas quand, mais oui, on se reverra, ça c'est sûr.
Ouais, j'espère. Eh bien, passez une bonne soirée et puis nous, on se revoit lundi prochain.
Et moi, vous pouvez me voir au Festival de Cousance le 9 et le 10 décembre. Je serai à la buvette, normalement.
Buvette de dictée.
Non, je serai derrière, moi, derrière le bar. Je ne serai pas en train de boire.
Non, mais j'ai compris.
Je ne serai pas un pilier.
Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des
clip, crop,
des
bang,
des
bang,
et des
zip, bam, pow, blanc.